France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Le voici donc, ce rapport tant attendu qui nous parle à tous puisqu'il vise à définir l'avenir du système électrique français. Cette trajectoire doit nous emmener, puisque c'est le postulat de départ, vers une énergie décarbonée en 2050. C'est le postulat puisque c'est ce qu'on a signé. C'est comme ça qu'on est dans les accords de Paris. Le rapport qui a nécessité 2 ans de travail est signé donc RTE, le gestionnaire national du réseau de transport d'électricité. Un rapport fondamental dévoilé ce matin et qui fait déjà réagir puisqu'il arrive un moment du débat public où énergie et climat se mêlent à nos conversations. Un rapport fondamental à l'heure où l'on parle avenir industriel de la France, où on est à une semaine de l'ouverture de la COP26, où la question du nucléaire est devenue un thème de campagne. On est à 6 mois des élections, où le montant aussi de notre facture énergétique à nous, les particuliers, est un vrai sujet de préoccupation. L'augmentation du prix de l'essence aussi. Autre postulat, avant d'entrer ensemble dans le débat, mais c'est bien de l'avoir en tête, 63% de l'énergie utilisée en France est fossile. Le nucléaire, avec nos 56 réacteurs, fournit 70% de notre électricité, mais 20% seulement de notre énergie. On garde en tête, partant de là, et à grand renfort de simulation, RTE a donc dessiné 6 scénarios qui vont d'une option à 100% d'énergie renouvelable à une option à 50% de nucléaire encore. Dans les 3 premiers scénarios qui misent plus sur l'énergie renouvelable, le nucléaire historique est petit à petit démantelé à mesure que les énergies renouvelables sont implantées. Dans les 3 derniers scénarios, le rythme de mise en place d'énergie renouvelable est moins soutenu, ce qui implique de nouveaux EPR entre 8 et 14 et même un peu plus. Comment on obtient ces simulations? Qu'est-ce qu'on met dans le shaker? Qu'est-ce qui est pris en compte? Quelle est l'indépendance de RTE? Toutes vos questions, et vous êtes déjà nombreux, sont bonnes à prendre. Xavier Piechazik, le président du directoire RTE France, est avec nous et merci beaucoup de passer ces 40 minutes avec nous, monsieur Piechazik. J'ajoute une chose qui mettra peut-être tout le monde d'accord pour démarrer au moins cette émission, c'est aussi un postulat, quel que soit le choix qui sera fait en France. Le temps presse, c'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Laurent. Bonsoir, vous êtes dans les Côtes d'Armor.
Oui, bonsoir Fabienne et merci de me donner la parole. Moi, je voulais poser une question sur les coûts des différents scénarios parce que RTE donc laisse entendre que les scénarios avec du nucléaire seraient un peu moins coûteux que le 100% renouvelable. Et je suis quand même surpris parce que je me demande si on n'a pas oublié de prendre en compte 2 paramètres. Alors, à ce jour, le coût de l'uranium que nous achetons à 100% à l'étranger n'est pas très coûteux. Mais qui dit que demain, eh bien, ces coûts n'exploseront pas, un petit peu comme ça se passe pour le pétrole, puisqu'on en est à 100% dépendant, ne serait-ce que pour des raisons géopolitiques, on pourrait voir ce coût fortement augmenter. Donc, une forte incertitude. Et puis surtout, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est est-ce qu'on a pris en compte le coût d'un possible accident nucléaire majeur, hein, puisqu'on sait que l'autorité de sûreté nucléaire elle-même nous a clairement indiqué, oui, un accident de type Fukushima peut bien arriver en France. Or, à ce sujet, il faut d'ailleurs préciser que le coût d'une catastrophe nucléaire sera payé par nos impôts, puisque aucune assurance ne veut assurer les centrales nucléaires. Les assurances savent très bien que c'est beaucoup trop dangereux et qu'en cas de catastrophe, elles seraient ruinées si elles assuraient le nucléaire.
Alors, on est sur un autre sujet, si vous le permettez, Laurent, mais on va parler effectivement à la fois des scénarios qu'on met en place, et y compris peut-être le plus catastrophique. Merci de cette entrée en matière. Et je vous salue, Monsieur Piechazik.
Bonsoir, Fabienne Saint-Est.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Il y a 2 choses dans la question de Laurent qui parle de coûts. D'abord, il y a beaucoup d'auditeurs, comme ça je voudrais qu'on le dise une bonne fois pour toutes, qui parlent de rareté potentielle d'uranium. Y a-t-il une rareté potentielle d'uranium? Et y a-t-il un prix de l'uranium qui peut subitement se mettre à flamber comme le pétrole?
Non, à notre connaissance, il n'y a pas une rareté de l'uranium. Dans nos scénarios, il y a des stocks d'uranium suffisants largement pour soutenir l'activité d'un parc nucléaire en France pendant plusieurs dizaines d'années. Ce que je veux dire à notre auditeur, c'est que nous estimons les coûts complets des systèmes électriques. Et quand on fait ça, on compte tout. On compte les coûts de l'appareil de production, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, les coûts aval, les coûts amont. On compte le coût des moyens nécessaires pour piloter le système électrique, des batteries, du stockage par hydrogène par exemple.
Ce que vous dites, c'est que c'est pas juste la centrale qu'on plante ou l'usine photovoltaïque, etc.
Absolument, et on compte aussi tous les coûts réseau, parce qu'entre les installations de production et votre prise électrique chez vous, il faut des réseaux. Donc on compte tout, et lorsqu'il y a des doutes, notre méthode c'est de prendre des prudences, c'est-à-dire de compter large et de faire en sorte qu'on ne puisse pas être taxé d'avoir minoré tel ou tel coût. Donc, et typiquement sur le nucléaire, l'ensemble des estimations que nous avons retenues et qui ont fait l'objet d'une très large concertation pendant 2 ans avec toutes les parties prenantes, y compris des anti-nucléaires durs, c'est bien d'être prudent sur les coûts de l'ensemble de l'appareil nucléaire français, y compris en approvisionnement d'uranium.
Alors, pour autant, quand je vois vous, quand je regarde vos scénarios, effectivement, en l'état, il y a un écart de 10 milliards d'euros par an, c'est ce que j'ai retenu, entre le tout renouvelable, le 100% renouvelable, et un reste de nucléaire, et même le dernier scénario, celui de N03. Qu'est-ce qui fait, alors qu'il faut tout construire hein, dans le dernier scénario nucléaire, il faut faire à minima 14 EPR et quelques SMR, et on sait au téléphone sonne depuis quelque temps ce que sont des SMR, ces petits, on va dire, des mini-centrales, on va le dire comme ça. Pourquoi c'est moins cher de créer 14 EPR et des mini-centrales que de remettre à plat tout un réseau photovoltaïque ou éolien? Pourquoi il y a une telle différence?
Alors en fait, la différence, elle se trouve dans ce qu'on appelle les moyens de flexibilité. Monsieur Ruffez, tout à l'heure, dans son reportage, en a parlé. Il faut que nous, lorsqu'on pilote le système électrique, vous les Français, vous ayez de l'électricité à chaque seconde. Et lorsqu'on a des modes de production d'électricité qui sont variables, comme le solaire, l'éolien, etc., il faut des moyens de pilotage qui peuvent être des batteries stationnaires, de l'hydrogène qui stocke de l'énergie, des barrages, etc. Et tous ces moyens, qui s'appellent des flexibilités et qui nous permettent de piloter le réseau, ils sont plus ou moins chers selon que vous avez des scénarios qui tendent vers 100% renouvelable d'une part ou qui comportent du nouveau nucléaire. Et ce qui fait la différence entre des scénarios 100% renouvelables et des scénarios qui comportent du nouveau nucléaire, c'est d'une part ces flexibilités qui sont très onéreuses lorsqu'on fait un scénario 100% renouvelable d'une part. Et puis ce qui fait la différence aussi, c'est les réseaux. Lorsque vous avez beaucoup d'énergie renouvelable, elles sont diffuses sur le territoire et tout le monde comprend bien que quand cette production d'énergie n'est pas concentrée, elle est diffuse. Il faut beaucoup de câbles pour relier tout ça jusqu'à la consommation finale. Et donc lorsque vous additionnez le coût de ces flexibilités pour piloter le réseau et pour garantir la sécurité d'approvisionnement d'une part, et que vous additionnez les coûts de réseau, effectivement les scénarios 100% renouvelables tendent à être plus chers, de l'ordre de 10 milliards, entre le moins cher des scénarios 100% renouvelables et des scénarios avec du nouveau nucléaire.
Surtout, effectivement, si le développement, comme vous le dites, est diffus. Notre ami Laurent, tout à l'heure, parlait d'une catastrophe nucléaire. Alors, on va essayer d'imaginer qu'il n'y aura pas de catastrophe nucléaire. Mais enfin, c'est une éventualité qui n'est pas écartée à 100%. Moi, je me demandais même, y compris dans le renouvelable, quels sont les aléas qui sont pris en compte? J'ai vu dans votre rapport, par exemple, imaginer un temps extrêmement important sans vent. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est une vraie question sérieuse. Ou, à l'inverse, des pluies diluviennes, etc. Est-ce que ça entre en ligne de compte? Et est-ce que ça joue vraiment, si demain on était à 100% renouvelable, est-ce que vraiment on est tributaire de ces éléments extérieurs?
Oui, alors ce que je dois dire, c'est que pour la première fois, nous avons intégré dans nos modèles les dérives climatiques du GIEC. Et que notre modèle, on rentre dedans à chaque heure, de chaque jour, de chaque année, pendant 30 ans, 200 chroniques de météo en tout point du territoire français. Et ces chroniques météo, elles décrivent le climat qui va changer. Et c'est vrai que demain, il y aura beaucoup plus de bulles de chaleur, beaucoup plus de moments probablement sans vent, et ça, nous l'intégrons. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y aura probablement demain des moments sans vent qu'il faut des flexibilités, c'est-à-dire des moyens de stockage supplémentaires pour qu'on puisse avoir de l'électricité à chaque heure du jour et de la nuit. Et c'est ce qui fait partie de la différence de coût. C'est d'intégrer nos modèles météo qui dérivent. Ils sont fondés sur le GIEC, c'est extrêmement sérieux. On a bossé avec Météo France. Et donc à la fin, oui, on simule le système électrique pour la consommation de demain, mais aussi pour la production de renouvelables demain, en fonction des chroniques météo que nous avons.
Monsieur Piechazik, vous l'entendez, cette petite voix, cette critique qu'on entend depuis ce matin, s'il faut construire 14 EPR, peut-être 8 même dans le scénario du dessus, quand on voit la difficulté de l'EPR en ce moment, quand on voit les coûts qui n'ont pas été dépassés, ils ont été totalement explosés, on se dit que mais il faut commencer demain, là, dans ces cas-là, et quand je dis demain, c'est vraiment demain mardi. Comment on fait pour en créer autant à un horizon extrêmement rapproché, sachant que des difficultés comme celle-là, on peut en connaître, ouais.
Alors, tous nos chemins sont des chemins possibles, mais il n'y en a aucun qui est facile. Ils ont tous des contraintes. Si on choisissait un scénario 100% renouvelable, on sait très bien d'ores et déjà que le rythme de la France n'est pas assez soutenu.
Absolument.
Pour développer les énergies renouvelables.
Vous dites qu'il faudrait un rythme encore plus soutenu que tout ce qui a été fait jusqu'à présent en Europe.
Absolument. Si la France décidait de s'orienter vers un scénario 100% renouvelable, il faudrait qu'on batte le record de nos voisins européens tous les ans pendant 30 ans, au moins sur l'offshore et au moins sur le solaire. Donc ça, ce serait déjà un exploit. De l'autre côté, c'est vrai que 14 EPR en 30 ans, c'est ambitieux. Mais on ne dit pas que c'est impossible, on dit que c'est possible. Ce que nous avons dit ce matin, c'est qu'il y a urgence dans tous les cas et qu'il faut commencer très bientôt.
Parce que ce qui est intéressant, et vous le dites aussi dans votre rapport, c'est qu'on ne peut pas construire à la cadence à laquelle on a construit de toute façon, là on parle du nucléaire, dans les années 70 et 80, parce qu'on le faisait à une cadence infernale, parce qu'on le faisait aussi sans prendre en compte, l'aménagement du territoire était second, on ne demandait pas beaucoup leurs avis aux élus, encore moins à la population, tout ça, et heureusement, a changé. Aujourd'hui les choses sont évidemment bien différentes. Si on ne peut pas le faire, et au fond il y va du renouvelable comme du nucléaire, à la cadence infernale qu'a été la nôtre dans les années 70-80, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas à l'objectif ? On rate l'objectif 2050 ?
Alors vous avez raison de dire que la France a changé entre 1970 et aujourd'hui, et les volumes de nucléaire que nous avons mis dans nos scénarios, ce sont les meilleures propositions vues d'aujourd'hui de la filière nucléaire. C'est un défi industriel, mais c'est finalement le maximum que la filière nucléaire envisage de pouvoir construire d'ici 2050. Si on ne tient pas le rythme des ENR, en toute hypothèse, et si on ne tient pas le rythme du nouveau nucléaire, si le gouvernement décidait de relancer du nouveau nucléaire, oui, nous pourrions rater ce rendez-vous de la neutralité carbone en 2050. Et ce serait dommage, parce que cette neutralité carbone, elle a quand même beaucoup de bienfaits. Je pense qu'on y reviendra. Je pense que c'est important qu'on explique à nos auditeurs tous les bienfaits qu'a cette neutralité carbone dès 2050.
Et vous dites aussi que l'objectif ne pourra pas être atteint sans nouveau EPR, mais aussi avec des renouvelables. En vous lisant, en tout cas en lisant les scénarios, moi ce que j'ai compris c'était ça, c'est que l'objectif ne pourra pas être atteint sans nouveaux EPR, ce sera en tout cas extrêmement difficile, même si, et vous le dites à chaque page, en effet, on a besoin de donner un vrai coup d'accélérateur sur l'énergie renouvelable.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire plus d'énergie renouvelable pour être à la neutralité carbone en 2050. Ça, c'est incontestable. Et c'est un acquis. Et donc il faudra que la France en fasse plus qu'aujourd'hui et probablement beaucoup plus. Après, il y a une option qui s'ouvre. La France veut-elle reconstruire du nouveau nucléaire ou pas ? Si la réponse est non, il faudra qu'on accroisse encore le rythme des énergies renouvelables. Si la réponse est oui, alors oui, la filière industrielle française devra être en capacité de produire beaucoup de EPR d'ici 2050. Mais ce que je veux faire comprendre à nos auditeurs, c'est que, quoi qu'il arrive, si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, le pays a besoin de plus de renouvelables.
Neutralité carbone, on va le redire, ça veut dire qu'on a éliminé le fossile, et pour l'instant, le fossile chez nous, c'est 43% de pétrole, c'est 16% de gaz, et marginalement 1% de charbon. En gros, on en est là, dans notre mix à nous pour l'instant.
Oui, la France est un pays très fossile finalement, même si son électricité est très décarbonée grâce au nucléaire d'aujourd'hui.
On a une énergie fossile et une électricité quasi décarbonée.
Absolument,
en fait.
Absolument. Mais aujourd'hui, l'électricité, c'est que 25% de notre consommation. Ce que je veux dire, c'est que la neutralité carbone, elle a trois bienfaits. Elle a déjà donc un bienfait que tout le monde connaît, c'est pour le climat, mais aussi pour les pollutions atmosphériques et pour le bruit dans les villes, par exemple, et on n'en parle pas souvent. Le deuxième bienfait, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, la France, elle consomme 60% de fossiles. Qui sont produits où ? qui sont produites à l'étranger. Mmh. Et donc aujourd'hui, la France n'est pas indépendante du point de vue de son énergie. Pas du tout. Et donc le deuxième bâcher de cette neutralité carbone, qui se fonderait sur l'électricité, c'est que cette énergie soit nationale. Le troisième bienfait, c'est que si nous maîtrisons notre production d'électricité, on protège les consommateurs des yo-yos des prix des fossiles, comme ce que nous connaissons en ce moment sur le prix du gaz.
Et alors effectivement, j'allais en parler, on parlera aussi de notre facture électrique. J'aimerais qu'on retourne au standard, de retrouver d'abord Hervé. Bonsoir Hervé.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Hervé.
Oui, ben voilà, j'habite en Alsace. Je vais régulièrement en Allemagne me balader dans la forêt noire. Quasiment tous les bâtiments agricoles sont couverts de panneaux solaires. Je suis content qu'on ferme Fessenheim en Alsace parce que on sait toujours pas comment les démanteler, ces centrales nucléaires. Mmh. C'est bien de savoir démarrer quelque chose, mais c'est bien aussi de les faire arrêter. Là, on parle de Bure, là, en ce moment, des enfouissements des déchets radioactifs. Ça fait, une vingtaine d'années qu'on en parle. Mmh. Je trouve que ça traîne, quoi. Je veux dire, on n'a pas de solution et je pense que le nucléaire, c'est une voie sans issue.
Et merci. Pardon. Voilà. Pardon. Vous aviez fini, Hervé?
Ouais, okay, non, super. C'est à peu près tout ce que j'avais.
Eh ben, très bien. Merci beaucoup. Merci de votre appel. Monsieur Piechazik, nous avons aussi Marine qui est en Dordogne et qui dit, a-t-on pris en compte le coût des démantèlements des centrales nucléaires à l'intérieur des scénarios? Qu'est-ce qu'on fait de ça?
Oui, absolument. On a pris en compte le coût de démantèlement de l'ensemble des centrales. Comme je vous l'ai dit, notre étude prend le coût complet du système électrique jusqu'à ce qu'il soit réformé. Donc nous intégrons le coût de l'ensemble du démantèlement de toutes les centrales nucléaires d'aujourd'hui, celles qui existent, mais aussi celles potentiellement de demain si le gouvernement le décide. Évidemment, ce n'est pas à RTE de décider qu'il faut faire du nouveau nucléaire, mais bien évidemment, tout est compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'aval jusqu'à l'amont.
Xavier Piechazik, pour savoir comment scénariser, il faut savoir combien les Français vont consommer d'électricité. Il faut savoir faire des projections par là. Vous êtes basé sur ce qu'on appelle une trajectoire de référence. En fait, on est à 645 tétrawatts. Alors, ça dit pas grand-chose aux gens, 645, juste pour leur dire que là, en ce moment, on est à 475. Ça dit qu'il y a, de toute façon, une augmentation de notre consommation électrique dans cet horizon 2050. Il y a aussi une trajectoire qui s'appelle la trajectoire sobriété, qui est à 554. Et ce qu'on entend depuis ce matin, ce qui vous est reproché, c'est qu'au fond, on ne bâtit pas les scénarios sur un scénario qui serait plus sobre, on les bâtit sur la trajectoire de référence. Pourquoi on ne peut pas décider de se poser sur ces 554 alors que oui, nous devrons aller de toute façon vers une forme de sobriété?
Voilà, déjà, ce que je veux dire, c'est que la neutralité carbone, par définition, on se passe du pétrole. Mmh. Et donc, c'est l'électricité qui va venir remplacer le pétrole. Et le bon exemple, c'est la voiture. Votre voiture marche au pétrole aujourd'hui, ou votre moto. Et demain, elle marchera à l'électricité. Et donc, oui, nous allons consommer plus pour nous chauffer dans nos industries et pour nous déplacer. Nous allons consommer plus d'électricité. Et nous montrons que cette consommation, elle augmente dans tous les cas. Mmh. Et nous avons choisi une trajectoire de référence qui ne change pas les modes de vie des Français. Mmh. Hein, c'est une trajectoire de référence dans laquelle on fait de la performance énergétique, parce que lorsque vous changez votre frigo, votre nouveau frigo consomme par nature moins que le vieux. Mmh. Donc ça, c'est de la performance que vous ne voyez pas. Mais notre scénario de référence ne prend pas parti de changer le mode de vie des Français. Mmh. Nous avons fait un deuxième scénario sobriété qui, lui, effectivement, suppose un changement de mode de vie des Français.
Comme, par exemple, qu'est-ce que change avec ces... C'est quoi les 100 tétrawatts de différence entre ces deux scénarios?
Alors, on s'était promis de ne pas citer le chiffre terawattheure, mais le dire quand même. Terawattheure, c'est un volume d'électricité. Ouais. Ce qui change, par exemple, c'est qu'il faudrait que, en moyenne, les habitats soient plus petits. Mm-hmm. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait moins de voitures électriques, mais probablement beaucoup moins. Mmh. Un tiers de moins, de l'ordre de 35 millions de véhicules électriques dans notre scénario central, et plutôt entre 20 et 25 millions dans notre scénario sobriété. Ouais. Ce qui change, c'est un rapport au travail différent, avec beaucoup plus de télétravail, des déplacements plus courts, que les Français mangent une nourriture moins transformée pour que l'industrie alimentaire consomme moins d'électricité. Mmh. Donc c'est des changements de mode de vie. Mmh. Nous, on porte pas du tout de jugement là-dessus, sur la désirabilité de ce modèle-là. Ce qui compte, c'est qu'on documente le débat et qu'on explique aux Français ce que ça veut dire. Nous avons pris un scénario central, effectivement, de consommation qui ne change pas les modes de vie. Il y en a un plus bas qui implique des changements de comportement presque citoyen et qui impose de l'engagement collectif, mais ça c'est une question politique. Il y en a aussi un plus haut, qui suppose une réindustrialisation profonde du pays,
ouais, 752,
et
c'est
qui
beaucoup.
Lui nous conduirait à consommer beaucoup plus, en supposant que la part de l'industrie manufacturière en France pourrait croître plus que prévu.
Alors, c'est vrai qu'on avait dit qu'on dirait pas terawatt parce que ça dit pas grand chose aux gens, mais ça dit mégawatt, c'est difficile même d'imaginer ce que ça veut dire. Ouais. Mais est-ce qu'on peut faire une espèce de comparaison, pardon pour la question très béotienne, les 100 terawatts, c'est quoi en fait? Ce que je veux dire, c'est est-ce que 100 terawatts, c'est une centrale? Est-ce que 100 terawatts, c'est un champ photovoltaïque de je ne sais combien d'hectares? C'est quoi, ça se matérialise comment, cette unité de 100 terawatts?
Ouais, c'est assez difficile d'avoir ce genre de, ouais, de comparaison, parce que tous les modes de production fonctionnent de manière différente. Mmh. Ce qu'on peut retenir, c'est que ce volume de 100 TWh qui différencie un scénario central d'un scénario sobriété, c'est le cumul des efforts qu'il faudrait faire sur la mobilité en ayant un tiers de voitures en moins. C'est beaucoup plus de télétravail, c'est des espaces de bureaux beaucoup plus petits, c'est des réductions de la vitesse moyenne de circulation sur la route, c'est des véhicules plus légers, c'est une transformation de notre industrie agroalimentaire. Donc c'est beaucoup, 100 TWh, c'est 20% de ce que produit la France aujourd'hui en électricité, donc c'est effectivement beaucoup de centrales.
Denis, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Denis.
Bonsoir, eh bien, je vous remercie déjà de prendre ma question. Vous avez déjà répondu en petite partie à...
Allez-y, on va tâcher de répondre en grande partie.
Oui, c'est-à-dire moi je crois pas un seul instant qu'on puisse remplacer dans l'état actuel de nos productions, et même en envisageant autre chose que du solaire ou de l'éolien, le nombre de kilowatts et de terawatts et de, comment peut-on les appeler, d'énergie qui sont actuellement utilisées en énergie fossile, ne serait-ce que sur la route. Mmh. Il y a des centaines de voitures, des centaines de millions, de milliers de voitures qui circulent. Si on veut passer l'intégralité ou tout ou partie du parc automobile en alimentant avec de l'électricité, ça ne marchera pas. On a déjà actuellement un pays qui nous demande de diminuer notre consommation les soirs d'hiver en ayant un petit peu plus frais à la maison et en diminuant notre consommation électrique en début de soirée. Comment on recharge les bagnoles des mecs qui rentrent du travail? C'est la question que je me pose.
Est-ce qu'on vous peut répondre à Denis, Xavier Piéchazy? Comment on recharge les bagnoles des mecs qui rentrent du travail?
Oui, Denis. Denis, je vous rassure, il n'y aura pas de problème de recharge de vos voitures, parce que finalement, même si tout le parc électrique français de voitures était électrifié, finalement, ça ne consomme pas autant d'électricité que ça. Ce qui consomme beaucoup d'électricité, c'est la vie de la France, c'est les bâtiments, c'est l'industrie, c'est le tertiaire. Mmh. Et donc, oui, effectivement, le fait de transformer tous nos parcs de véhicules en véhicules électriques, c'est pas un gros effort, finalement, pour le système électrique. Mmh. Nous, on parle pas de croyance. Ce qu'on essaye de faire dans le débat public, c'est de documenter tout ça. Moi, je trouve que le débat aujourd'hui sur l'énergie est très polarisé et trop polarisé. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de documenter, de renseigner pour qu'un débat rationnel puisse avoir lieu. Et justement, je comprends, Denis, son inquiétude pour qu'on sorte du registre de la croyance et qu'on rentre dans le registre de la rationalité, parce que je crois que c'est urgent que la France prenne un chemin. On a dessiné 6 chemins possibles. Maintenant, c'est aux politiques de décider ce qu'il faut faire. Et dans ces scénarios, il y a des choix de société aussi. Et c'est normal que cette décision elle soit précédée d'un débat démocratique. Je crois que c'est sain.
Vous parliez des batteries tout à l'heure, et je pense aussi aux panneaux photovoltaïques. Et quelque chose que vous faites entrer en ligne de compte et que je trouve assez intéressant, c'est aussi l'empreinte carbone de ce que nous allons faire à l'intérieur de ces scénarios-là. Je pense à ça parce que dans les batteries, par exemple, il y a un certain nombre de métaux rares qu'on va chercher en République démocratique du Congo dans des conditions que l'on sait épouvantables, ou en Chine et ailleurs. Et il faut bien que ces produits arrivent jusqu'à nous. Est-ce que là aussi, dans l'idée de neutralité carbone dans ces scénarios-là, est-ce que ça entre en ligne de compte? Est-ce que ça ajoute, est-ce que ça se soustrait à notre neutralité carbone quand on sait qu'il y a un certain nombre de matériaux et de métaux rares qu'il faut qu'on aille chercher ailleurs?
Alors Fabienne Sathès, votre question, elle est double. Il y a un sujet de métaux et nous avons effectivement détecté qu'il pourrait y avoir un certain nombre de tensions en approvisionnement sur certains métaux, dont le cuivre, mais aussi des certains métaux qui sont communs avec la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Il n'y a pas d'alerte particulière, mais on envisage quand même des marchés tendus, notamment sur le cuivre, parce qu'on utilise du cuivre notamment dans le système électrique, mais pour faire des batteries et donc tout un tas d'autres choses. Après, ce que nous avons fait aussi, c'est le bilan CO2 des systèmes électriques que nous étudions. Et là, sans aucune contestation, ils sont tous très positifs. Même si certains panneaux solaires sont encore fabriqués en Chine, on pourrait souhaiter qu'ils soient demain fabriqués en Europe, même si des pales d'éoliennes sont fabriquées au Danemark, même si certains composants nucléaires sont fabriqués dans certains pays d'Europe, le bilan carbone du système électrique de demain, donc du système électrique de la neutralité, il est largement positif, même quand on intègre le cadre de vie de tous les équipements jusqu'à leur mort. Très très positif. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Nous avons intérêt à changer le système électrique pour qu'il devienne plus gros et pour qu'il remplace le pétrole, parce que même sur sa durée de vie, ce système électrique sera, du point de vue du CO2, beaucoup moins impactant que le fait de continuer à utiliser du pétrole dans nos chaudières à mazout ou dans nos réservoirs de voitures.
Bonsoir Paul.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Paul, on vous écoute.
Merci. Merci de prendre mon appel et bravo pour vos émissions. Ma question est la suivante. Je partirai du fait qu'on entend dire que le nucléaire, le développement du nucléaire est inévitable, alors que le problème des déchets n'a pas été réglé et ne pourra pas l'être, alors qu'il y a des risques d'accident. Voyons maintenant les énergies renouvelables. Elles coûteraient, nous venons d'apprendre, 10 milliards. Est-ce que 10 milliards sur le budget d'un pays comme la France, ça pèse lourd en face des enjeux?
10 milliards de plus par an, pardon, excusez-moi de vous interrompre, Paul.
Le problème majeur des énergies renouvelables, c'est la question de leur non-flexibilité, ou de la flexibilité plutôt. Elles ne fonctionnent pas quand il n'y a pas de vent, ou quand le soleil ne brille pas. Alors, pourquoi ne développe-t-on pas la filière hydrogène qui, elle, permettrait d'accumuler de l'énergie quand le soleil ne brille pas ou le vent ne souffle pas? Voilà.
En voilà une bonne question, Paul. Je voudrais juste ajouter à la question de Paul tout à l'heure, ou en tout cas apporter une précision, Xavier Piechazy, qu'on est bien d'accord, parce que c'est le chiffre qu'on a cité tout à l'heure. Les fameux 10 milliards qu'on a cités, c'est la différence par an entre un scénario tout renouvelable et un scénario qui continue à inclure une grosse part de nucléaire. Alors, l'hydrogène, il est dans votre ligne de mire, si je puis dire.
Absolument. Je vais répondre à Paul, pour lui dire que on ne dit pas que le nouveau nucléaire est inévitable. Ce qu'on dit, c'est que des scénarios avec du nouveau nucléaire sont effectivement moins chers que des scénarios qui tendent vers 100% renouvelables. Mais la question économique ne peut pas être le seul critère de la décision. Il y a, vous l'avez dit, la question des déchets, il y a la question de l'empreinte sur les territoires, sur l'environnement, sur les paysages, il y a les questions d'incertitude technologique qui subsistent entre différents scénarios. Donc, la décision politique, je suppose qu'elle se fondera sur tout un tas de critères et pas uniquement sur le critère économique. Alors, sur l'hydrogène, Paul, vous savez que pour produire de l'hydrogène, il faut de l'électricité. En tout cas, pour produire de l'hydrogène vert, il faut de l'électricité. Et donc, nous avons, vous avez raison, calculé les volumes d'hydrogène qui seraient utiles pour gérer la variabilité des énergies renouvelables. Et donc, d'une certaine manière, si on veut se protéger contre la variabilité des énergies renouvelables, oui, il faudra utiliser de l'hydrogène, qu'on produira d'ailleurs grâce à l'électricité, qu'on va stocker et qu'on brûlera quand on en aura besoin, un soir d'hiver, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent.
Est-ce que c'est à ça que ça sert, les fameux SMR, plutôt, c'est-à-dire à être collé aux usines d'hydrogène, pour dire les choses de manière extrêmement béotienne, pour servir spécifiquement à ça, fournir en électricité ce dont on aura besoin en hydrogène?
Ah, ça peut servir à ça, mais c'est pas conçu pour ça, parce que, de manière générale, les appareils nucléaires, ils sont ils sont conçus pour marcher tout le temps. Lorsque je parle de flexibilité, c'est-à-dire d'utiliser de l'hydrogène qui est stocké et qu'on brûle quand on en a besoin, c'est plutôt pour gérer les pointes. Et donc, les outils pour gérer les pointes de demain, c'est plutôt des centrales à gaz qui marchent avec du gaz vert. Le nucléaire, c'est plutôt conçu pour fonctionner tout le temps, jour et nuit.
Il y a une chose, Xavier Piechazik, que vous avez répété plusieurs fois, vous parlez de l'incertitude technologique. Et en effet, on lit aussi dans ce rapport, on se rend bien compte, on parlait des EPR tout à l'heure, qui pour l'instant, effectivement, ont de la difficulté, donc on imagine qu'il va falloir que les suivants n'en aient pas. On parlait des mini-réacteurs, les fameux SMR, pour l'instant, on n'en a qu'un qui est totalement expérimental. Sur les grandes étendues photovoltaïques, et pareil pour l'éolien, on a beaucoup de progrès à faire. On a l'impression que tout ça repose aussi sur beaucoup de paris technologiques, en fait, et des choses que, pour l'instant, on ne sait pas encore faire.
Alors, les différents chemins qu'on décrit, ils reposent effectivement sur des paris technologiques qui sont plus ou moins lourds selon les scénarios. Sur les scénarios qui tendent vers 100% renouvelables, se posent des questions de pilotage et de stabilité du système électrique, aussi de confirmer que la boucle hydrogène, et notamment qu'on soit donc en capacité de faire des centrales hydrogène, ça marche. Et ça, on n'en a pas la garantie. Donc oui, c'est une incertitude. De l'autre côté du spectre, on ne peut pas dire qu'on ait aujourd'hui la garantie. Dans notre scénario, je dirais le plus nucléarisé, la France n'a pas la garantie que ses tranches nucléaires pourraient être prolongées au-delà de 60 ans.
Absolument.
Donc, chaque chemin a ses défis. Ils sont plus ou moins intenses, ils sont plus ou moins lourds. Ce que nous avons dit ce matin, ce que nous avons rendu public, c'est que si la France veut être absolument au rendez-vous de 2050, être à l'heure, il vaut mieux qu'elle choisisse des scénarios qui sont, qui comportent le moins d'incertitudes sur le plan technologique. Et si vous me permettez une métaphore, si donc il fallait qu'on soit à Marseille demain matin 9h, et si on avait le choix entre prendre une mobylette qui marche, une moto en kit sur catalogue dont il manque des pièces, ou aller en sortant chez le concessionnaire prendre une moto et partir. Si on veut absolument être à l'heure, il faut plutôt aller chez le concessionnaire, prendre une moto et partir, plutôt que de faire le pari d'une moto en kit dont il manque peut-être des pièces, ou dont les pièces seront peut-être prêtes, mais pas demain matin, et plutôt la semaine prochaine.
On l'a bien comprise, la métaphore, Xavier Piechazik. Je voudrais qu'on écoute Philippe. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais vous poser une question sur le gaz. En fait, depuis quelques mois, on dit que le gaz va disparaître, qu'on n'achète plus de chaudières au gaz, ce genre de choses. Et que fait-on du gaz vert? Parce que apparemment, on en fabrique de plus en plus. On a plein de méthaniseurs, des choses comme ça qui s'installent. Donc voilà. Où
merci,
est le gaz vert?
Merci Philippe.
Dans les six scénarios.
Merci Philippe. Alors pas de gaz vert dans les six scénarios, pas de gaz du tout. Enfin, disparition du gaz, on va dire, Xavier Piechazik. Et le gaz vert, ça existe ou pas réellement ou pas alors?
Alors, il n'y a pas du tout disparition du gaz vert. Le scénario de la neutralité carbone en 2050 que nous étudions, c'est 50% d'électricité qui seront consommées par les Français et les 45%, ce sera des bioénergies. Dans ces bioénergies, j'en ai pas parlé, il y a du gaz produit par la méthanisation et par les déchets agricoles. Voilà. Et donc, la France de la neutralité carbone de demain, c'est une France qui combine de l'électricité décarbonée, qui sera majoritaire, c'est sûr, et des bioénergies qui comprendront des gaz verts issus de la méthanisation, mais aussi de la chaleur bois, du recyclage des déchets, etc., etc. Donc c'est vraiment ce paquet bioénergie dont les gaz issus de la méthanisation agricole et l'électricité décarbonée qui nous permettront tous les deux d'atteindre la neutralité carbone en 2050.
Monsieur Piechazik, vous l'avez évoqué tout à l'heure et ça n'a échappé à personne, le prix de l'essence en ce moment est au cœur de chacune des préoccupations, le prix du gaz aussi. La question que je me pose moi, c'est y a-t-il un prix de l'électricité plus cher en fonction des scénarios et à quelle échéance ou pas?
Alors Fabienne Synthèse, c'est une question difficile parce que nous avons parlé des coûts et non pas des prix.
Exactement.
Et comme vos auditeurs le savent sûrement, il y a une différence entre les coûts et les prix. Ce que nous avons dit, et ce qui est finalement la bonne nouvelle, c'est que les systèmes électriques de demain, ceux de la neutralité carbone, ils ne seront pas substantiellement plus chers qu'aujourd'hui. Certes, ils vont être plus chers globalement parce qu'ils seront plus gros comme on consommera plus d'électricité, il faut qu'on en produise plus, et donc le système va être globalement plus cher. Mais lorsque vous rapportez le coût de ce système au mégawattheure, on envisage des évolutions entre quelques pourcents et plus 30%, donc entre quasiment plus 0 et plus 30 à 35% dans 40 ans, ce qui n'est pas du tout une explosion du coût du système électrique. C'est même absolument maîtrisable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la France, elle peut renouveler son système électrique pour atteindre la décarbonation dans 30 ans à un coût qui sera maîtrisé pour les Français. J'ajoute qu'en 2050, les ménages n'auront plus de facture de pétrole. Lorsque vous irez à la pompe, ce sera de l'électricité, ce ne sera plus du pétrole. Donc on va délester les ménages de la facture de pétrole et de la facture de gaz fossile. Et toutes les économies qu'ils vont faire avec ça, ça leur permettra d'acheter de l'électricité qui sera décarbonée.
Une dernière question, il nous reste un peu moins d'une minute. Xavier Piechassy, qui ne vous a pas échappé évidemment que vous touchiez à un sujet qui est extrêmement politique et dans la période en ce moment, tout cela est éminemment politique. Qu'est-ce qui se passe maintenant, une fois que les scénarios sont là? Est-ce que ils servent réellement de base? Est-ce que un président, j'ai envie de dire un président, quel que soit le président qui arrivera dans 6 mois, peut vous dire, alors moi je choisis une espèce de mix entre le scénario 2 et le scénario 4, débrouillez-vous, vous m'en refaites un. Est-ce que c'est comme ça que ça peut se passer ou pas?
Écoutez, je ne sais pas. Nous faisons ce type de documents prospectifs, d'ailleurs qui font partie de nos missions légales, parce que nous sommes un service public qui a la prospective dans ses missions légales. Nous faisons ces travaux très complets, très longs, très exhaustifs, pour éclairer le débat et pour permettre la décision publique. Donc ce qui se passe après ne m'appartient plus.
Et ne vous regarde pas, éventuellement.
Ça me regarde, mais ça ne m'appartient plus.
Xavier Piechassy, président du directoire de RTE France, merci beaucoup d'avoir été avec nous, avec les auditeurs de France Inter.
Merci infiniment.